Raymond DeVos.
Toute la nuit, j'ai entendu mon chromosome en plus qui tournait en rond dans ma cage en moins.
Pierre Rep.
Ce que je voulais, c'était simplement vous dire une toute petite fable de La Tonfaine que tout le monde connaît, de Falontaine, de mon auteur favori.
Daniel Prévost.
Ah, vous êtes venu pour rigoler. Eh ben, on va voir si on va rigoler. Ah, je sais très bien ce que vous vous êtes dit. Avec Prévost, on va bien se marrer.
Et tous les plus grands du rire sont dans les fantaisies de Bouzyde.
Bonjour et c'est parti pour une nouvelle demi-heure de fantaisie, histoire de se détendre et de penser à autre chose que notre quotidien. Aujourd'hui, je vous ai concocté une spéciale Raymond DeVos, ce magicien du rire et des mots surtout, et il va nous faire part de ses différents états d'âme, en commençant par ses doutes. Pour les chasser, il va se mettre à courir, mais après quoi, il vous le dira. De là, ça va lui valoir une consultation chez son médecin, pour se détendre un petit peu, et il va faire un tour en voiture, une balade dans tous les sens pour arriver jusqu'à la mer qu'il va falloir remonter. Une fois les vacances terminées, ce sera l'heure de la reprise, et qui dit reprise à la rentrée dit impôt. Et oui, son percepteur va lui rendre une certaine visite. Bref, pour conclure cette demi-heure, pas rancunier pour un sou, il fera une déclaration d'amour au travers de sa chaussure. Mais quelle pointure, ce DeVos!
Mesdames, messieurs, si vous me permettez, j'espère qu'en rentrant chez vous tout à l'heure, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, mesdames, messieurs, parce que moi, hier soir, en rentrant dans mes foyers plutôt que d'habitude, il y avait quelqu'un dans mes pantoufles. Mon meilleur copain. Si bien que je me demande si, quand je ne suis pas là, il ne se sert pas de mes affaires. Ah, j'ai des doutes. Bon, je vais vous jouer une étude de sort. Ça aurait été espagnol de 1778. Ah, j'ai des doutes, c'est pas sa pointure, vous comprenez. Alors, il a force. Alors, après moi, quand j'entre... Ça aurait été espagnol de 1778 jusqu'à sa mort. Après de très belles études, il en a écrit plusieurs, très belles aussi, dont la cinquième, que je vais vous interpréter, si vous le permettez. J'ai horreur qu'on se serve de mes affaires. Horreur, j'ai... Pour quelques francs, il a une paire de pantoufles, un pantoufle, il n'a pas besoin de trucs. Cinquième étude de ça. Mon pyjama, c'est pareil. Depuis qu'il a acheté le même, je retrouve plus le mien. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Ma femme ne voulait pas le croire. Mais je lui dis, tu vas voir, un de ces jours, il va aussi se servir de tes affaires. Mon vieux, le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son par-dessus. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Un soir, j'arrive sur le palier, j'entends, profitons-en pendant qu'il n'est pas là, débarrasse-toi de ton bonhomme de mari, c'est un rabat-joie. J'en dis à mon copain qui était là, j'y ai, baisse un peu la radio, on l'entend en bas. Trois jours après, j'entre, je trouve dans mon lit en train de fumer une cigarette, une des miennes. J'ai à ma femme qui était à côté, je dis, tu peux pas l'empêcher de fumer, non? Il a brûlé mes draps. Il s'en sert, il n'y a pas de... Alors, mes pantoufles, mon pyjama, ma radio, mes cigarettes, pourquoi pas ma femme, pendant qui? Merci bien, madame, monsieur. Merci. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Ah, je peux pas vous dire laquelle, j'ai traversé en courant. Mais lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, n'est-ce pas? Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde sans raison. Alors à un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur, et on lui dit, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici. Il me dit, vous n'êtes pas au courant? Ah, j'ai dit, si, les bruits ont couru, ben il me dit, ils courent toujours. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Il me dit, tout, il y en a qui courent plus pressés. Celui-ci court pour la gloire, celui-là court à sa perte. Et je dis, mais pourquoi courent-ils si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Mais je dis, où comptez-vous? Il me dit, à la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, ils repartent au courant gagner d'autres. Je lui dis, le reste du temps, il me dit, ils courent faire leurs courses. Au marché. Je dis, mais pourquoi font-ils leurs courses en courant? Mais je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Mais s'ils peuvent aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Il me dit, on voit bien que vous ne les connaissez pas. Il me dit, d'abord, le fou n'aime pas la marche. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'il la rate. Eh bien, je dis, pourtant, j'en vois un qui marche, là. Il me dit, oui, c'est un contestataire. Il en avait assez de toujours courir comme un fou, alors il a organisé une marche de protestation. Eh bien, je dis, dites donc, il n'a pas l'air d'être suivi. Il me dit, si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Je dis, vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Il me dit, oui, moi, j'expédie les affaires courantes. Parce qu'il me dit, même ici, les affaires ne marchent pas. Je lui dis, mais où courez-vous là? Il me dit, je cours à la banque. Ah, j'ai pour y déposer votre argent. Il me dit, non, pour le retirer, moi je suis pas fou. Alors je lui dis, si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Il me dit, parce que j'ai gagné l'argent fou, c'est moi le banquier. J'ai un médecin, il est fou, si mon médecin est fou. Un jour, en pleine nuit, il me téléphone, il me dit, je vous réveille pas? Comme je dormais, je lui dis non. Il me dit, voilà, je viens de recevoir du laboratoire les résultats de nos deux analyses. Il me dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, en ce qui me concerne, tout est normal. Par contre, pour vous, c'est inquiétant. Ben, j'ai dit, quoi, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, vous avez un chromosome en plus. Je lui dis, c'est-à-dire? Il me dit, c'est-à-dire que vous avez une case en moins. Lui, ça signifie, ben, il me dit, ça signifie que vous avez le virus du tueur. Vous êtes un tueur, né. Je dis, moi, un tueur? Il me dit, je vous rassure tout de suite, c'est pas dangereux pour vous. Mais pour ceux qui vous entourent, ils doivent se sentir visés. Je lui dis, mais je n'ai jamais tué personne. Il me dit, vous inquiétez pas, ça va venir. Il me dit, vous avez une arme? J'ai dit, oui, j'ai un fusil à air comprimé. Il me dit, alors, pas plus de 2 airs comprimés par jour. Et il raccroche. Alors, toute la nuit, j'ai entendu mon chromosome en plus, qui tournait en rond dans ma case en moins. Le matin, je me réveille avec une envie irrésistible de tuer quelqu'un. Il fallait que je tue quelqu'un, mais qui tuer? Hein, je me disais, qui tuer? Enfin, qui tuer? Hein? Non, mais pas qui tuer dans le sens qui es-tu, toi qui cherches qui tuer. Ou dis-moi qui tuer, je te dirai qui tuer. Ah ben, qu'ils étaient, ben je le savais, j'étais un tueur. Et un tueur sensible. Enfin, il fallait que je tue quelqu'un, et puis j'avais personne à ma portée, ma femme était sortie. J'ai dit, tant pis, j'ai tué le premier venu. Ah, j'ai dit, j'ai tué le premier venu. Alors je prends mon fusil sur l'épaule, je sors, et sur qui je tombe, le hasard fait bien les choses, hein, sur le premier venu. Il avait aussi un fusil sur l'épaule, il avait un chromosome en plus.
Il me dit, salut, toi le premier venu. J'ai dit, non, pour moi le premier venu, c'est vous. Ah, il me dit, non, je t'ai vu venir avant toi. Il me dit, de plus loin. Il me dit, ça, ton hip-hop, je te tutoie. Il me dit, je te tutoie et toi, tu me dis tu. Et si je dis tu à ce cœur, il va me tuer. Je lui dis, et si on s'épaulait mutuellement? Alors, il me dit, d'accord, on se met en joue. Et puis il me dit, stop, stop, nous allions commettre une irréparable bavure. Nous ne pouvons pas considérer deux hommes qui ont le courage de s'entretuer comme des premiers venus. Il faut en chercher un autre. J'ai dit, d'accord. Et tout d'un coup, j'entends claquer deux coups de feu et je vois courir un type avec un fusil sur l'épaule. Alors je lui crie, vous aussi, vous voulez tuer le premier venu? Il me dit, non, le troisième, j'en ai déjà raté deux. Et tout d'un coup, je sens le canon d'une arme s'enfoncer dans mon dos. Je me retourne, c'était mon médecin. Il me dit, je viens vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. Je commence à me dire, oui, le laboratoire a fait une erreur. Il a confondu nos deux analyses. Le virus du tueur, c'est moi qui l'ai. Je dis, docteur, vous n'avez tout de même pas tué de sang-froid un de vos patients? Il me dit, si, la patience a des limites. J'en ai assez de vous dire, ne vous laissez pas abattre. Je lui dis, vous avez déjà tué quelqu'un, vous, docteur? Il me dit, sans ordonnance, jamais. Mais je vais vous en faire une. Et il m'en a fait une. Alors.
J'étais dans ma voiture. J'arrive sur une place. Je prends le sens giratoire. Emporté par le mouvement, je fais un tour pour rien. Je me dis, ressaisissons-nous. Je vais prendre la première à droite. Je vais pour prendre la première à droite, sans interdit. Il fallait s'y attendre. Je vais prendre la deuxième, sans interdit. Si c'était à prévoir, je vais prendre la troisième. Je vais pour prendre la troisième, sans interdit. J'ai ils exagèrent tout de même. Je vais prendre la quatrième. Je vais pour prendre la quatrième, sans interdit. J'y tiens. Je refais un tour pour vérifier. 400 interdits. Alors j'appelle l'agent, je dis, monsieur l'agent, je m'excuse, il y a quatre rues, elles sont toutes les quatre en sens interdit. Il dit, je sais, c'est une erreur. Je dis, alors, pour sortir. Ben, il dit, vous pouvez pas. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il me dit, tourner avec les autres. Mais j'y tourne depuis combien de temps? Mais petit, il y en a, ça fait plus d'un mois. Puis j'y dis rien. Mais dis, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils ont l'essence, ils sont nourris, ils sont contents. J'y dis, il y en a pas qui cherchent à s'évader. Mais j'y dis, si, mais ils sont tout de suite repris. Mais j'y dis, par qui? Il me dit, par la police qui fait sa ronde, mais dans l'autre sens. Ah ben, je dis, ça peut durer longtemps, ça. Mais me dit, jusqu'à ce qu'on supprime l'essence. Je dis, si on supprime l'essence, alors il faudra remettre les bons. Mais me dit, il n'y a plus de bon sens. Il me dit, ils sont uniques ou interdits? Il me dit, donnez-moi 300 francs. Je dis, de quoi? Mais me dit, de taxes de séjour. Il me dit, plus 900. Mais je dis, pourquoi? Mais il me dit, parce que c'est défendu de stationner. Ah, je dis, ça commence bien. Mais il me dit, tâchez que ça continue, sans ça je vous aurai au tournant. Alors j'ai tourné. J'ai tourné. Alors à un moment, je voulais à côté d'un laitier. Alors j'ai engagé la conversation. J'ai dit, moi laitier, j'ai dit, ton lait va tourner. Il me dit, t'en fais pas, je fais mon beurre. Ah ben, je dis, celui-là, il a le moral. Hein. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette voiture noire, là, qui ralentit tout? Il dit, ça, c'est le corbillard. Il dit, tourne depuis 15 jours. Ben, je dis, la voiture blanche, là, qui nous double. Ah, il dit, ça, c'est l'ambulance. Priorité. Je dis, mais il y a quelqu'un dedans, là? Ah, il me dit, il y avait quelqu'un. Ben, je dis, où il est maintenant? Il me dit, dans le corbillard. Alors, Je me suis arrêté. J'ai appelé l'agent, j'ai dit, monsieur l'agent, je m'excuse, j'ai un malaise. Il me dit, si vous êtes malade, montez dans l'ambulance.
J'avais 3 jours devant moi, je dis, tiens, je vais aller voir la mère. Je prends le train, j'arrive là-bas, je vois le portier de l'hôtel, je lui dis, où est la mère? Il me dit, la mère, elle est démontée. Ah ben, j'ai voulu la remonter quand? Il me dit, c'est une question de temps. Je lui dis, moi, je suis ici pour 3 jours. Il me dit, en 3 jours, l'eau a le temps de couler sous le pont. Je dis, le pont? Merci, je vais attendre demain. Alors le lendemain, je demande, où est le pont? Il me dit, le pont, quel pont? Ben, je dis, le pont, quoi. Il me dit, il n'y a pas de pont. Je dis, comment, il n'y a pas de pont? Il me dit, non, il y en avait un, mais on l'a démonté. Comment j'ai vous démonté tout ici alors? Il me dit c'est la guerre. Ben, je dis vous la remontez quand? Il me dit tous les 20 ans. Je dis moi je suis ici pour 3 jours. Il me dit en 3 jours vous avez des chances. Je dis bon, je vais attendre demain. Alors le lendemain je me dis tout de même avant de partir, faut que je me débrouille pour voir la mer. Je vois le portier de l'hôtel. Je lui dis, je voudrais voir la mère. Il me dit, c'est pas possible. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que c'est la fête. Ah, je dis, c'est la fête? Il me dit, oui, alors on fait le pont. Oh, ben, je dis, si vous refaites le pont, je vais pouvoir voir la mère. Il me dit non, parce qu'il y a le feu d'artifice. Ben, j'ai le feu d'artifice, je le verrai de la mer. Il me dit, vous le verrez mieux de votre chambre. Mais je dis, ma chambre, elle donne pas sur la mer. Et bien, il me dit, le feu d'artifice non plus. Mais je dis, je m'en fous, moi, de votre feu d'artifice. Je veux voir la mer. Il me dit, c'est pas possible, pas possible. Je lui dis, comment, comment? Il me dit non, parce qu'il y a les gradins. Je dis, quels gradins? Ils me disent, ils ont mis des gradins sur la plage pour voir le feu d'artifice. Je dis, ils ont mis des gradins. Ils ont mis des gradins. Alors moi, je viens de Paris, je prends le train, je me donne du mal, tout ça. Oh, il me dit, pleure pas, tu la reverras, ta mère. Et moi, je dis, je veux la voir tout de suite. Il me dit, c'est pas possible. Alors je lui dis, les gradins, vous les démontez quand? Il me dit, quand la mer sera remontée? Eh ben, je dis, vous la remontez quand, la mer? Il me dit, quand vous serez parti?
Qu'est-ce qui vient de passer, là?
Mais quel type?
Mais là, un type vient de passer, là!
J'ai pas vu passer
de type! Un type vient de passer!
J'ai pas vu passer de type, je dis!
Vous n'avez pas vu passer un type, là?
Mais non, absolument pas, non! Et qui c'était?
J'ai cru que c'était mon percepteur! Je vois passer partout, le bonhomme! Je sais pas si vous croyez à la sorcellerie! Moi, je ne voulais pas y croire! Jusqu'au jour où je me suis aperçu que j'étais possédé du percepteur! Je suis possédé du percepteur. Envoûté, envoûté, si vous préférez, par mon percepteur. Depuis quelque temps déjà, je le voyais qui rôdait autour de ma maison. Il allait et venait comme ça. Il semblait dessiner tout en marchant des figures géométriques. Et en fait, il prenait des mesures fiscales. Et puis il disparaissait, et puis il revenait. Et je savais que chaque fois qu'il revenait, je payais un nouvel impôt sur le revenu. C'est d'ailleurs en faisant mes comptes que je me suis rendu compte qu'il revenait souvent. Et un soir, je rentre chez moi et je trouve une feuille d'impôt clouée sur ma porte. C'était un premier avertissement. Faut dire que je n'ai pas pris au sérieux. Ben, j'étais un peu surpris quand même. J'ai dit, tiens, au lieu de glisser la feuille sous la porte, il la cloue. Sur les méthodes modernes. Bon. Seulement voilà que le lendemain, j'étais cloué au lit avec une forte fièvre. Alors là, je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux clous? C'est vrai, j'enfonce un clou et puis un type arrive avec une tenaille, il arrache le clou. Un peu égaré. Non, ça y est, j'ai retrouvé le fil, j'ai retrouvé. Alors quelques temps plus tard, en faisant le tour du propriétaire, je découvre à chaque angle de ma propriété des lettres qui étaient tracées à même le sol. Il y avait un T, un V et un A. À vol d'oiseau, ça fait TVA. J'étais cerné par la TVA. Vous connaissez le sens secret fiscal de ces trois lettres ? TVA. Si vous prenez les deux premières lettres, TV, ça veut dire en clair, as-tu payé la taxe sur la TV ? VA, va payer la taxe sur la TV. TA, t'as payé la taxe sur la TV ? Ah, alors on va la payer. C'est un rappel à l'ordre constant. Même si vous lisez les lettres à l'envers, ça vous rappelle encore quelque chose. T, V, A, AV, avez-vous payé la taxe sur la TV ? AT, hâtez-vous d'aller payer la taxe sur la TV ? VT, VT-vous et hâtez-vous d'aller payer la taxe sur la valeur ajoutée. J'ai manqué de sens civique parce que j'aurais dû me vêtir et me hâter d'aller payer ma taxe sur la valeur ajoutée. Au lieu de ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis rendu au siège de la sécurité sociale pour y réclamer une somme importante qui m'était due depuis fort longtemps. Évidemment, on m'a répondu que mon dossier s'était égaré. Je veux dire que ça m'a presque rassuré. Je me suis dit, enfin, quelque chose de prévu. Eh bien, j'en avais presque oublié mon percepteur. Seulement voilà que dans la nuit qui a suivi, je suis réveillé en sursaut par un ululement de percepteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ululer un percepteur dans la nuit. C'est sinistre ! Inhumain !
Ouh ! Des sous !
Des clous !
Je me précipite à la fenêtre et je vois sous la lune argentée, car dès que la lune est argentée, mon percepteur rapplique. Je vois mon percepteur qui se livrait à un étrange cérémonial. Il ouvrait les bras, les fermait, il rouvrait, les fermait. Je me dis, il doit chercher à voler. Et voilà que dans le reflet de la vitre, je sens quelque chose qui bougeait derrière moi. Et je vois sur mon bureau ma rente Pinet. Une petite rente Pinet que j'avais. Je la vois se plier, se replier, et par un sortilège se transformer en une cocotte en papier. Laquelle cocotte a pris son envol ? Moi, j'ai cru que c'était la mère du petit qui venait réclamer le poussin que j'avais mangé. Et à l'appel du percepteur, elle est allée se poser sur son épaule comme une chouette. Le percepteur s'en est saisi, il a déplié la cocotte, il a replié ma rente Pinet, il en a fait un petit avion qu'il a lancé comme ça en l'air, comme on lance un emprunt. Oui. Je me dis, c'est un mirage ou quoi ? Et le petit avion est venu se reposer sur mon bureau en se dépliant. Moi, j'allais le prendre d'assaut. C'était plus la même rente, elle concordait plus. Pinet en rente Giscard. Oh, il est fort. Il est diablement fort. Vous savez que pour me défaire de son emprise, j'ai tout essayé, tout, tout. Je suis même allé voir un prêtre. C'est vous dire à quel point j'étais désespéré. J'ai dit, mon père, je suis possédé du percepteur. Pouvez-vous pratiquer l'exorcisme ? Il m'a dit, mon fils, vous m'auriez parlé du démon. Mais contre les puissances de l'argent, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, mon père ? Il m'a dit, payez. Payez, payez pour nous. Je paye. Et plus je paye mon percepteur, plus il me le fait payer. Il met ma faiblesse à contribution. Il me taxe sur ma valeur personnelle. L'année dernière, il m'a fait payer une taxe supplémentaire sur la sécheresse de mon esprit. On voit tout ça parce que j'ai eu la faiblesse de montrer des signes extérieurs de richesse, alors que ma richesse est tout intérieure.
Vous savez, mesdames, messieurs, à force d'inventer des histoires, d'écrire des histoires, de les jouer, J'ai fait une crise de narcissisme. Hein, je vous la souhaite pas, hein. Hein, bon, vous savez ce que c'est que le narcissisme. C'est se plaire. Se plaire! Mais Narcisse s'était épris de lui-même en se contemplant dans l'eau d'une fontaine. Oh. Et moi, j'étais chez ma marchande de chaussures, en train d'essayer une paire de vernis. Et en me penchant pour juger de l'effet, je me suis vu dans ma chaussure comme si j'y étais. Elle réfléchissait mon image, comme depuis la surface d'une chaussure est courbe, convexe, elle faisait miroir déformant. Si bien que selon que j'approchais ou m'éloignais, mon visage changeait de pointure. Alors fatalement, à un moment, j'étais beau. Là, je n'ai plus bougé. Je suis resté là à me mirer dans ma chaussure. Et plus je me mirais, plus je m'admirais. J'ai trouvé que j'avais de beaux yeux. J'ai dit à la vendeuse, je crois que j'ai trouvé chaussure à mon pied. Oh, elle me dit, vous avez de la chance. J'ai dit, oui, je suis verni. J'ai payé, sans même daigner jeter un regard sur la vendeuse. Et je me suis retrouvé dans la rue à marcher tête baissée comme ça. Je pouvais plus me quitter des yeux. Alors les gens qui me connaissaient, comment ça va? J'ai dit, ça va, ça va. Salut, toi, salut. Les badauds, qu'est-ce que vous regardez? Ça me regarde. Les gens croyaient que je faisais du nombrilisme. Parce que c'est sur le trajet, alors ils croyaient que... Non, non, non. Non. C'était bien du narcissisme et de la plus belle eau. Alors, les gens qui m'aimaient bien, ils essayaient de me distraire. Regarde là-haut! Il y a un ange qui passe! Je le sais, je le vois passer dans ma chaussure. Les psychiatres se sont penchés sur mon cas et sont venus regarder dans ma chaussure pour voir s'ils m'y voyaient. Comme ils s'y voyaient aussi, ils s'y miraient. Et plus ils s'y miraient, plus ils s'admiraient. Ils finissaient par ne plus voir qu'eux-mêmes, alors ils disaient, il y a un tas de gens dans les chaussures de Devos, sauf lui. Et un jour, quelqu'un m'a marché sur le pied, le lendemain, j'avais une tête comme ça, un menton en galop, je marchais à côté de mes pompes. Là, j'ai dit, ça suffit, c'est terminé, hein. Je suis retourné voir la vendeuse, j'ai dit, mademoiselle, donnez-moi une autre paire de vernis, mais mat. Elle a chaussé ses lunettes, elle s'est penchée, et elle est restée là, à se mirer dans ma chaussure. Comme si elle y était. Et plus elle se mirait, plus je l'admirais. Elle avait quelque chose d'un ange. Alors depuis, on ne se quitte plus d'une semaine. Alors, mesdames, messieurs, si vous m'entendez dire, en regardant ma chaussure, tu as de beaux yeux, tu sais. Ce n'est plus du narcissisme, c'est de l'amour. Amour, mon cher amour, on s'aimera toujours. La terre a beau tourner, ça ne peut jamais se taire.
Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, si vous croisez un fada, dites-lui d'aller se faire cuire un bœuf. Bye bye.